Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit sa réflexion sur l'extraterritorialité du droit en s'intéressant au cas de la Chine. Faut-il redouter un nouvel ordre mondial à la chinoise? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre en compagnie de Laure Deron, avocate au barreau de Paris, qui enseigne également le droit chinois à l'université de Paris 8. La Chine a lancé il y a quelques années déjà un immense projet, celui des routes de la soie. C'est en quelque sorte une mondialisation à la chinoise, une mondialisation concrète qui se réalise par des constructions réelles et non pas par des grands idéaux. La part grandissante de l'économie chinoise dans l'ordre économique mondial ne peut pas ne pas avoir de répercussions sur l'extraterritorialité de son droit et donc de son pouvoir. Eh bien, c'est cette dimension à la fois très concrète, économique, mais aussi culturelle, que nous allons explorer ce soir en compagnie de Laure Deron. Bonsoir Laure Deron.
Bonsoir Antoine Garapon.
Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, nous dire quels sont vos contacts avec la Chine? Je vous ai présenté comme avocate au barreau de Paris, mais vous êtes plus que ça, vous avez eu des fonctions avant.
Alors, je suis effectivement avocate au barreau de Paris et sur mes contacts avec la Chine, alors je suis tombée dedans quand j'étais petite.
Oui, c'est ça.
Plus exactement, on m'y a plongée, puisque je viens d'une famille qui a des contacts asiatiques anciennement ancrés sur plusieurs générations et me concernant plus particulièrement, je suis arrivée en Chine relativement petite, en 1977, dans les bagages de mes parents qui y travaillaient.
C'est ça. Et donc, vous parlez le chinois
Je l'ai appris dans le bain.
Oui. Et vous connaissez la Chine et vous avez fait des affaires en Chine aussi un petit peu.
Effectivement. Alors, je suis retournée en Chine comme beaucoup d'enfants d'expatriés. J'ai eu envie de retourner là-bas une fois que j'ai eu fait mes études et que je me suis dit que je pouvais avoir une autre expérience du pays. Et j'ai travaillé là-bas en tant qu'avocat dans un cabinet d'affaires qui était établi en Chine. Et puis j'ai travaillé également dans un grand groupe français qui avait des projets en Chine dont je me suis occupée de négociations de projets, de gestion du risque juridique. Voilà.
C'est ça, risque juridique, on va en parler beaucoup. En tout cas, c'est dire si vous êtes qualifié pour aborder notre sujet. Parce que l'extraterritorialité, on le comprend, on l'a vu dans nos discussions précédentes, on le comprend en général par rapport aux États-Unis, qui est le grand méchant qui est celui qui étend son emprise, et on mesure moins qu'il y a une autre emprise qui est celle du droit chinois. Et quand on en parle d'une manière toujours un petit peu, on est un peu mal à l'aise vis-à-vis de la Chine, on a tendance à la diaboliser, et peut-être parce qu'on ne la comprend pas, Laure Deron.
Oui, alors il faut, je crois, dédramatiser un petit peu tout ça. Il y a le droit chinois et puis après, il y a l'impact de la Chine qui s'exprime par le droit, mais aussi par le fait que c'est une très grande puissance économique et qu'elle exporte son modèle. Alors sur l'extraterritorialité, il y a effectivement un certain nombre d'éléments dans le corpus législatif chinois qui parlent d'extraterritorialité. Pour autant, quand on regarde dans le détail, est-ce qu'il y a vraiment de quoi fouetter un juriste? Pas forcément. Il y a des éléments de droit chinois, il y a des dispositions de loi chinoise qui ont des effets que nous on appellerait extraterritoriaux, c'est-à-dire que on va aller s'intéresser à des actes qui sont commis à l'étranger.
Ils sont pas les seuls à faire ça d'ailleurs.
Ils sont absolument pas les seuls à faire ça et d'ailleurs nous-mêmes on a des dimensions relativement similaires. Par exemple, dans le droit pénal chinois, vous avez des dispositions qui sanctionnent des agissements de ressortissants chinois ou d'entreprises chinoises à l'étranger. Bon, pour donner un élément de comparaison, dans le droit français, si vous commettez des actes de pédophilie en tant que ressortissant français aux Philippines, vous êtes punissable devant les tribunaux français pour ça.
Donc, il y a ça. Et réciproquement, si on est victime, un Français ou une Française est victime à l'étranger, la loi française estime avoir droit de regard au moins sur le sort qui sera réservé dans ce pays-là.
Tout à fait. Donc, c'était pour dire que il ne faut pas dramatiser les éléments d'extraterritorialité qui peut y avoir dans le droit chinois. Il y en a effectivement un peu dans le droit pénal, mais ils ne sont pas les seuls à le faire.
Mais il n'y a pas que le droit pénal, il y a aussi le droit économique. Alors, là, c'est différent.
Tout à fait, mais à nouveau, ils ne sont pas les seuls à le faire, puisque effectivement, dans la loi sur les pratiques anticompétitives en Chine, qui d'ailleurs est postérieure et s'est inspiré des lois occidentales similaires, puisque la loi chinoise date de 2008. Il y a effectivement des injonctions auprès des acteurs économiques de communiquer des éléments sur des marchés et des opérations économiques qui sont passées à l'étranger, donc qui a priori ne regardent pas le législateur chinois. Mais le régulateur va s'y intéresser en demandant de communiquer des éléments, mais le régulateur européen aussi demande des informations sur des choses qui se passent ailleurs et qui viennent impacter son marché.
Ce que vous nous dites, Laure Doron, c'est qu'en réalité, dans beaucoup de domaines, les Chinois n'en font pas plus que les autres, pas plus que les Européens, et que dans le fond, c'est le business qui est extraterritorial. On l'a déjà dit beaucoup cette semaine, c'est le business qui est extraterritorial, qui nous met tous en situation d'interdépendance les uns avec les autres, et donc bien évidemment il peut y avoir un impact ou une rétroaction de l'immense marché chinois sur les affaires partout dans le monde.
Alors, pour être précise, Antoine Carapon, je dis deux choses. Je dis d'une part qu'effectivement il y a de l'extraterritorialité dans le droit chinois, mais ça n'en fait pas un monstre, ça en fait un ordre juridique relativement courant, enfin assez similaire à ce qu'on peut observer chez nous ou dans d'autres ordres juridiques. Après, il y a aussi un impact du droit chinois, mais qui peut être du droit interne chinois, qui lui va venir avoir des influences, comme vous dites, sur nos pratiques commerciales, nos modèles de business avec la Chine. Mais ça, c'est pas de l'ordre du droit. Et la raison pour laquelle ça nous impacte, c'est en raison de la taille de l'économie chinoise. Donc une décision qui est une décision sino-chinoise au départ peut très bien avoir un impact qui va aller toucher des gens qui au départ n'avaient pas d'intérêt ou d'interaction chinoise.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que dans le fond on a vu la même chose pour les États-Unis, c'est-à-dire que la masse du marché américain, on parle du market power américain adossé à une politique étrangère, c'est absolument vrai, mais il y a un pouvoir du marché parce qu'il y a une masse financière telle qui fait que on peut pas ne pas faire autrement que d'en tenir compte, et ça n'a pas que des effets négatifs d'ailleurs
Non, pas du tout. Effectivement, alors quand on regarde, pour prendre un exemple qui est tiré de l'actualité relativement récente, je crois que tout le monde a un peu suivi cette tragédie du Boeing 737 Max, où, pour rappeler un peu ce qui s'était passé, deux avions à 6 mois d'intervalle se sont écrasés, l'un en Asie du Sud-Est et l'autre en Éthiopie, avec presque 300 morts, je crois, dans ces deux catastrophes cumulées. Et ce qui est très intéressant pour le juriste et puis pour voir quel est l'impact de la Chine, c'est de voir comment s'est déroulée la procédure de remise en sécurité de cet avion à partir de ça. C'est-à-dire qu'au moment où les tragédies se sont passées, c'est un avion qui a été construit par Boeing, donc constructeur américain, et qui au départ a été certifié, puisque les avions sont tributaires de certification pour pouvoir voler partout dans le monde, par le régulateur fédéral américain, donc la FAA, Federal Aviation Authority. Comme il n'existe pas de régulateur mondial sur la sécurité des avions et sur la certification des avions, vous avez des instances qui sont soit nationales, soit dans des ensembles régionaux, comme ça peut être le cas en Europe. On a une instance européenne là-dessus. Quand cet avion est tombé, ce qui est intéressant, c'est que tant du côté américain que du côté européen, ça a été un peu une concours de silence. Personne n'a rien dit. Et celui qui s'en est ému, c'est le régulateur chinois.
Il y avait eu un déni de la part des Américains. Absolument. En disant, circuler, il n'y a rien à voir.
Alors effectivement, il y a eu une affirmation, en tout cas, que l'avion avait été certifié, qu'il était sûr et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, en tout cas. C'est peut-être pas, il n'y a rien à voir, c'est en tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter et de quoi réagir.
Et les Européens sont écrasés.
Et les Européens ont été assez muets jusqu'à ce que le régulateur chinois, qui avait un intérêt très particulier, parce que il se trouve que cet avion est un moyen courrier, donc il couvre des vols de 7-8 heures à peu près, sans être technicienne de l'aviation, c'est ce que moi j'ai pu lire des explications techniques que j'ai parcourues. Et ça, c'est intéressant pour la Chine, parce que la destination 7-8 heures, quand on part de Pékin, ça aboutit à tout un tas de destinations qui sont sur ces fameuses routes de la soie que vous citiez, Antoine Garapon, et qui sont d'un intérêt. Donc
crucial.
Il est de l'intérêt des autorités chinoises qu'on puisse voler de Pékin pour aller vers sa destination, y arriver et en revenir de préférence par 1000 morceaux. Et par ailleurs, ce moyen courrier, du fait de ses compétences techniques, enfin de ses capacités techniques, avait été abondamment commandés par les compagnies chinoises qui s'apprêtaient.
Ils en ont beaucoup.
D'où intérêt du régulateur chinois qui, le premier, a réagi et qui a interdit de vol et de survol de son espace cet avion. Donc
les deux. Interdit de vol et de survol de son espace, qui est aussi une interdiction tout à fait drastique.
Alors, je crois que techniquement, c'était une interdiction de décollage et d'atterrissage. Ah, mais je laisserai des gens plus compétents que moi valider ça. Mais en tout cas, le fait est que tous les Boeing 737 MAX se sont retrouvés cloués au sol en Chine. Ça faisait beaucoup pour les compagnies chinoises, donc évidemment une perte d'exploitation très très forte. Hein. Par ailleurs, l'un des Boeing qui est tombé était en leasing auprès d'une compagnie chinoise. Donc on voit qu'il y avait une nébuleuse d'intérêts économiques chinoises fort qui a certainement provoqué cette réaction. Puis par ailleurs, le régulateur aérien chinois qui est la CAAC, la CAAC, est connu de longue date et de absolument tous les étrangers qui habitent en Chine pour être particulièrement soucieux de sécurité, tatillon, ne laissant rien passer, clouant les avions au sol dès qu'il y a une goutte de pluie. Et sur cette histoire, ils ont été les premiers à réagir et à dire « Moi, tant que j'ai pas une certitude que cet avion est sûr et que tout est fait pour le remettre en sécurité, je n'autorise pas le décollage. » Donc c'était une mesure parfaitement interne de droit chinois qui ne concernait que la Chine.
Mais quelle répercussion énorme aux États-Unis ?
Eh bien, tellement énorme que Boeing, tout embêté, s'est retrouvé, ça a créé une émulation des régulateurs. Donc lui a emboîté le pas, le régulateur européen, puis le régulateur américain, et Boeing s'est retrouvé à rendre des comptes devant un panel de régulateurs sous la houlette chinoise, qui est la première chose qu'on voit arriver qui ressemble à un embryon de régulateur mondial.
Oui, et c'était assez piteux ce qu'a dit Boeing.
Alors, Boeing a dit ce qu'il pouvait défendre dans l'affaire.
Oui, mais bien sûr, mais ils ont vraiment collaboré, ils n'avaient pas le choix d'ailleurs.
Ah bah heureusement qu'ils ont collaboré, il y a quand même eu 300 morts, plus de 300 morts. Mais ce qui est intéressant, en tout cas moi ce qui m'intéresse dans l'impact de la puissance régulatrice chinoise, c'est de voir comment une décision qui au départ est une décision de police domestique chinoise, c'est-à-dire cet avion ne volera pas chez moi, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais chez moi ça ne volera pas, a conduit tout le monde à résoudre un problème de mondial dans une instance qui commence à devenir un panel mondial de certification des avions. Alors évidemment, là, il y a eu la coupure de l'été, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que tout s'est un peu arrêté au début de l'été. Mais ça va être très intéressant dans les années à venir de voir si cette initiative chinoise de régulation, par la force du régulateur qui impose son marché, parce que si un avion peut plus ni survoler ni décoller du territoire chinois, ça fait quand même un gros paquet de passagers potentiels qui ne l'emprunteront pas, et ça peut détourner des compagnies aériennes, arrive à révolutionner un marché mondial.
Et c'est un effet positif, Laure de Ron.
Ah bah, l'effet positif me concernant et vous concernant Antoine Garapon, c'est que vous ne monterez pas dans un avion dangereux qui risque
désormais
de s'écraser.
Je volerai tranquille en Chine. Mais c'est intéressant dans cet exemple-ci parce que finalement, comment ça se passait aux États-Unis, c'est qu'il y avait une confiance réciproque entre eux, quoi, supposée confiante et supposée réciproque, un accord confiant et réciproque entre le constructeur Boeing et le régulateur. Et en l'occurrence, ils avaient cédé à la pression du marché.
Alors, effectivement, il y avait deux choses qui étaient intéressantes. D'abord, il y avait un système, une architecture de confiance réciproque des régulateurs entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait un régulateur qui certifiait, et après, sur la foi de cette certification, on allait trouver tous les autres qui chacun était maître chez soi pour se faire autoriser à voler et à décoller sur le territoire. Effectivement, ce qui est apparu au détour de cette affaire, c'est que le régulateur américain avait confié au constructeur la certification de son propre avion. Et c'est ça qui a provoqué une réaction de la part des autorités chinoises.
Bien sûr, mais tout à fait saine au point de vue juridique, tout à fait saine parce qu'il y avait une contradiction notoire d'intérêts et que, en l'occurrence, la Chine a joué le rôle de tiers. Et c'est intéressant parce que vous montrez par cet exemple positif en quoi la Chine est un facteur de désaméricanisation du monde, par certains côtés, et de la régulation.
Alors, elle est un facteur de régulation, ça c'est certain. Elle est un facteur d'influence sur le marché mondial qui passe par d'autres voies que la puissance américaine. Alors, effectivement, il y a des histoires sur lesquelles ça a un impact positif. C'est pas toujours le cas. Il y a aussi des contre-exemples qui qui peuvent être un petit peu, qui doivent nous alerter. Mais moi, la morale de cette histoire que j'en retire, en tout cas à la fin de cet été, c'est de se dire que il faut pas nécessairement être effrayé de la puissance régulatrice et normative de la Chine, et que, à condition bien sûr de rester alerte et de surveiller la méthode, on peut gagner à lui emboîter le pas. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que l'on perçut les autorités européennes.
C'est ça. Alors, on reviendra sur les rapports entre l'Europe et la Chine, mais avant d'en arriver là, ça veut dire qu'il y a quand même, quoi, vous préparez un business, vous préparez un dossier pour un investisseur en Chine, c'est votre métier, alors vous faites ça
exactement
tout le temps. Bon, et vous allez parler du risque juridique, j'imagine. C'est le revers de l'extraterritorialité ou de la pleine territorialité. Quand on investit quelque part, où sont les risques? Comment est-ce que vous répondriez à un investisseur étranger qui viendrait en Chine?
Alors, d'abord, je lui répondrais que le risque, il existe et il est de la nature même de l'investissement. C'est un peu mon combat auprès des investisseurs, c'est de leur dire que on peut pas imaginer investir et participer à un cycle économique sans qu'on puisse éventuellement y perdre des plumes. Il faut l'accepter.
C'est pas du risque entrepreneurial.
Exactement, il faut l'accepter, mais je trouve que là aussi, les entrepreneurs chinois ont un peu cette culture de se dire on peut éventuellement y perdre des plumes et il n'y aura pas nécessairement lieu d'en vouloir à quelqu'un. Et donc, le concept de négocier en Chine, me semble-t-il, intelligemment, c'est de se dire que c'est un risque qui doit être partagé. Alors après, comment est-ce qu'on construit un projet? Il y a évidemment tout un tas de techniques juridiques et contractuelles pour négocier. Il y a des lois sur lesquelles on s'appuie et puis il y a des régulateurs qui sont là et qui nous imposent certains passages obligés. Mais c'est surtout un équilibre de la négociation.
C'est ça. Les Chinois sont très, ce sont des grands négociateurs. Ils défendent farouchement leurs intérêts, ce qui est tout à fait attendu de la part d'un négociateur. Ils s'attendent qu'on fasse la même chose, d'ailleurs.
Mais ils s'attendent à ce qu'on fasse la même chose. Et ça, c'est un peu un paradoxe, je trouve, dans l'attitude qu'on a quand on aborde des négociations, que ce soit des négociations commerciales ou même des négociations macroéconomiques sur des politiques économiques de grande envergure au niveau étatique. Il faut avoir la lucidité de se dire que il est tout à fait normal, équitable et de bon aloi pour un négociateur de se défendre, bec et ongles ses intérêts. Et c'est vrai pour un négociateur commercial, c'est vrai pour un avocat qui négocie un dossier, c'est même pas qu'il est de bon aloi, c'est qu'il a le devoir de défendre l'intérêt de son client.
Oui.
De la même manière que le gouvernement chinois, j'ai souvent entendu dire, et vous l'avez peut-être vous aussi entendu, Antoine Garapon, dire par certaines instances, comme si c'était un reproche qu'on le faisait, mais le gouvernement chinois, il défend les intérêts chinois, mais encore heureux, le gouvernement chinois est payé par le contribuable chinois pour se battre pour les intérêts chinois. Mais je n'ai jamais, en négociant des projets, je n'ai jamais rencontré un négociateur chinois qui m'en veuille personnellement de me battre pour mes intérêts à moi.
C'est ça. Alors, mais on pourrait retourner. Moi, je comprends cette phrase d'une autre manière qui insiste sur notre particularisme à nous. On y reviendra peut-être en deuxième partie d'émission. C'est-à-dire que on est habitué à une mondialisation dans laquelle le marché est pareil de toutes les vertus. De vertus extra-économiques. C'est toute notre histoire, toute l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire, c'est le marché utopique, comme dit Pierre Rosanvallon, c'est-à-dire que c'est le marché, mais le marché, c'est plus que le marché, c'est le bonheur universel. Le droit, c'est plus que le droit, c'est la morale du monde, les droits humains, etc. Alors, ça n'existe pas pour les Chinois. Les Chinois, on négocie un contrat. Il n'y a pas d'excédent de sens à la négociation.
Alors, il y a effectivement plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que le droit, dans la conception de l'État chinois qui s'est doté d'un arsenal juridique, c'est un instrument pour arriver à une bonne régulation économique et à un développement économique.
Et rien d'autre.
Alors, c'est un manuel d'instruction des bonnes techniques juridiques, comme vous auriez un manuel d'instruction pour votre machine à laver. Voilà. Il y en a un qui s'applique aux ensembles contractuels, c'est comment faire pour que ça se passe bien et que ça soit prévisible. Et ben, en réalité, bref, tout ce que les investisseurs occidentaux leur demandent quand ils viennent investir. Il y a moins effectivement dans l'esprit d'un négociateur et même d'un régulateur chinois l'idée que la norme est le fruit d'une réflexion philosophique, politique, qui s'autogénère, s'autocrée et crée une pensée politique autour. Il y a évidemment une école de droit chinois, il y a des philosophes chinois qui ont réfléchi historiquement sur tous ces concepts, mais il ne faut pas oublier que, en l'occurrence, le pouvoir chinois qui est créateur de normes chinoises aujourd'hui, il est le fruit d'une histoire avec une visée économique forte de ses prérogatives du souverain et avec un objectif économique.
C'est ça. Est-ce que je pousse un peu sollicite un peu votre pensée, Laure de Ron, si je dis que vous insistez beaucoup dans votre présentation du droit chinois en disant, pour les Chinois, l'accord, la médiation a une importance centrale, plus grande qu'elle a chez nous. Il faut trouver une résolution harmonieuse du conflit. Est-ce qu'il n'y a pas une version aussi positive en dehors du conflit dans la négociation d'un contrat? Est-ce qu'il n'y a pas un art chinois ou une valorisation chinoise de trouver un bon contrat entre deux partenaires qui ne lâchent rien?
Alors c'est tout à fait ce que moi j'ai trouvé effectivement en négociant des projets. L'idée, c'est évidemment, il y a une réalité de la négociation, c'est que vous négociez dans un antagonisme, c'est-à-dire que tout ce que moi je gagne, toi tu vas le perdre. Mais chacun garde quand même en tête que à la fin, l'idée, c'est que personne ne soit trop perdant parce qu'on va rester marié pendant plusieurs années. Donc, il faut effectivement qu'il y ait une satisfaction générale à la fin de la négociation du projet. Et c'est vrai que la culture juridique chinoise, au sens très large, hein, pas uniquement la culture des normes, mais la culture de l'instrument de régulation sociale qu'est le droit, c'est d'arriver à une solution qui soit un peu généralement acceptée par tout le monde. Et finalement, cette optique très contentieuse qu'on peut avoir du droit quand on est un juriste occidental, et en tout cas moi tel que je l'ai appris dans une faculté de droit, moi on m'a appris en tant qu'avocat français à défendre les intérêts de mon client, quitte à battre à plate couture partie d'en face. Et ce qu'on m'a pas appris, c'est qu'il y a un après. Et que dans cet après, si vous avez totalement écrasé celui qui est en face, et ben vous en avez fait un ennemi définitif. Or, c'est pas le but des partenariats. Et c'est pas le but de négocier les partenariats. Et cette dimension-là en Chine, qu'on n'a jamais intérêt à se faire des ennemis qui après peuvent 30 ans après ressurgir et qu'il faut s'efforcer de rester bien avec tout le monde parce que la vie des projets, la vie professionnelle, la vie des relations commerciales est longue, elle est très présente et elle oriente effectivement la manière dont on négocie et dont on conçoit le droit en Chine.
Et l'affaire Ouahaha Danone, c'est quand même un gros conflit. Je rappelle pour nos auditeurs, c'est qu'il y a une joint venture entre monsieur Ouahaha et Danone et que Danone à la fin se fait plumer, passez-moi l'expression, ou a l'impression de se faire plumer, et la grande entreprise est sans recours.
Alors, il y a effectivement quelques précédents fâcheux dans le droit chinois. Alors, je n'ai personnellement jamais travaillé sur cette affaire, donc je me garderai bien d'émettre des jugements, parce que c'est toujours facile de dire il aurait fallu faire comme si.
Non, je veux dire, je pose la question de l'arbitraire, Laure de Ron. Est-ce que vous estimez, parce que vous travaillez dans le monde entier, vous avez travaillé avec les États-Unis, est-ce que vous estimez que la part d'arbitraire est totale, plus grande qu'aux États-Unis, moins grande qu'on le pense? Quel est votre sentiment, hein? C'est bien sûr un sentiment.
Alors, j'ai pas d'expérience ni professionnelle ni personnelle très forte aux États-Unis. Je sais que sur la présence de l'arbitraire, moi, il m'est arrivé de me retrouver dans des administrations françaises avec une réponse totalement délirante.
Ah bon, donc l'arbitraire disant, est aussi chez nous dans l'administration.
L'arbitraire est tout à fait chez nous. Ça dépend au moins autant des textes de loi que de l'heure qu'il est au moment où on pose la question. Est-ce que le bureau ferme dans une heure ou pas? Il y a tout un tas de facteurs extra-juridiques qui viennent orienter la réponse. En tout cas, moi, le conseil que je me permettrais de donner à des négociations quand on aborde une négociation en Chine, c'est il faut essayer le plus possible de se doter dans son ensemble contractuel et dans sa relation commerciale avec le partenaire chinois d'une possibilité de se faire justice à soi-même, de créer des contrepoids à la puissance économique de l'autre. Et c'est un peu un équilibre de la terreur juridique qu'on installe.
C'est toute la mondialisation, ça.
C'est toute la mondialisation, mais effectivement, c'est intéressant de se dire que le droit chinois facilite beaucoup ça, parce que s'il y a une chose qui est quand même relativement marquante, c'est que néanmoins le droit chinois existe et que la force des accords contractuels en droit chinois est particulièrement reconnue. Donc quand vous arrivez à une situation totalement désastreuse où il y a un des partenaires qui s'est fait plumer, en fait c'est très 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 en amont qu'il aurait fallu montrer des dents et être beaucoup plus pugnace.
Alors, Laure Deron, vous avez amené de la musique avec vous. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire entendre ?
Alors, c'est une pièce d'un compositeur chinois qui a une histoire avec la France assez particulière, puisque c'est Xian Qinghai, qui est un compositeur cantonais au départ, qui a été donc qui est né en 1905, je crois, qui est mort en 1945, et qui a été le premier chinois admis en classe de composition au Conservatoire de Paris. Et alors, il est très connu en France pour avoir écrit une autre pièce qui s'appelle Le Concerto du Fleuve Jaune.
Oui.
Et le morceau qu'on entend là est extrait d'une autre œuvre qui s'appelle La Cantate de la Production, donc qui est évidemment d'inspiration. Tout à fait, c'est une œuvre de commande du Parti communiste à l'époque.
France Culture, Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec vous, Laure Deron, pour parler de la Chine, pour entendre la Chine aussi, sur ce morceau pour lequel vous n'êtes pas complètement étrangère non plus, de Laure Deron.
Non, effectivement, Antoine Garapon, alors pour la petite histoire, je chante sur le pupitre des sopranos de cet enregistrement, qui est le premier enregistrement de cette œuvre. À ma connaissance, il n'en existe pas d'autre. Et c'était un peu un chant du cygne d'une chorale très sympathique qu'on avait à Pékin et qui a décidé d'enregistrer cette œuvre. Qui est orchestré selon les techniques apprises au Conservatoire de Paris par Xian Qinghai, mais avec un orchestre uniquement d'instruments traditionnels chinois et composé sur des mélodies chinoises avec une harmonisation des chœurs à l'européenne.
Donc, alors, c'est un
je suis ravie d'avoir l'occasion de faire diffuser et connaître ce morceau.
Exactement, et pour nous, c'est une grande première à Matière à penser de diffuser une œuvre dans laquelle chante notre invité. Alors, l'orchestre, l'opéra, l'harmonie, la société harmonieuse, vous nous parliez du contrat et du sens des obligations contractuelles qui sont très strictes en Chine. Dans le fond, on parle d'extraterritorialité, mais il faudrait peut-être venir un petit peu en amont, plus profondément, Laure Deron, sur un rapport au droit, un sens du droit, une perception du droit qui est quand même complètement différente en Chine et en France et en Occident.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport à la norme.
Oui.
La norme n'est pas du tout sanctifiée dans l'esprit chinois et le rapport du justiciable chinois.
Et le juge non plus, d'ailleurs.
Non, le juge non plus. Alors, le juge jouit d'un certain prestige, mais qui est attaché à sa qualité de notable.
Mmh.
Et puis, il y a effectivement une judiciarisation de la vie chinoise qui se met en place.
Et qui s'accélère en ce moment.
Qui s'accélère, effectivement. Le nombre de contentieux, alors, j'ai pas de chiffres en tête,
oui.
Mais le nombre de contentieux est plus important. Il y a des domaines dans lesquels, très clairement, il y a quelque chose, il y a un développement contentieux qui commence à ressembler à ce qu'on peut connaître, nous, notamment la propriété intellectuelle, qui est vraiment la tarte à la crème sur laquelle il y a eu tellement de sujets avec les Chinois.
La tarte à la crème ou la pierre d'achoppement, comme on veut, parce que c'est quand même un domaine dans lequel les Chinois n'ont pas tellement envie de jouer le jeu de la mondialisation.
Non, mais en même temps, les Chinois partent d'un principe qui n'est pas tout à fait extraordinaire, c'est que ce que vous avez laissé exposer, c'est ce que vous tenez pas tellement à protéger, parce que si vous y teniez tant que ça, vous l'auriez mieux protégé. Donc finalement, c'est presque de bonne guerre. Alors, c'est pas tout à fait la conception qu'on a de la propriété intellectuelle, mais il faut quand même leur rendre cette justice qu'il y a des tribunaux aujourd'hui de propriété intellectuelle qui se sont créés avec des juristes et des magistrats vraiment techniques qui se sont formés et que le très 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 grande majorité du contentieux de propriété intellectuelle en Chine aujourd'hui est un contentieux sino-chinois.
Ah oui.
C'est des entreprises chinoises internes qui se copient et se font des procès entre elles. Alors il y a quelques étrangers qui se retrouvent pris là-dedans, mais c'est un mouvement qui est un mouvement chinois d'abord.
Alors on pourrait continuer parce que on a parlé de la propriété industrielle. Il y a quand même cette fameuse question lancinante de l'ouverture du marché chinois. C'est-à-dire que on a, c'est pas qu'une impression, c'est que le marché chinois n'est pas ouvert aux investisseurs étrangers. C'est un marché qui est encore qui. On a l'impression, je me fais l'avocat, comment dirais-je, des adversaires de cette de la Chine, disant aujourd'hui, eh bien, elle joue pas le jeu parce que elle va chez les autres, elle investit chez les autres, mais elle refuse l'ouverture de son propre marché. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Alors, je crois qu'il faut pas sauter de l'esprit que la principales préoccupations des autorités chinoises, ce sont d'abord des préoccupations chinoises.
Oui, c'est-à-dire oui, que... Oui, mais ça, c'est le cas dans beaucoup de pays.
Non, mais tout à fait, mais ça a un impact véritable. On a souvent l'impression que les étrangers sont très maltraités en Chine ou que les étrangers subissent des discriminations en Chine, mais du fait que c'est un marché très réglementé. Mais le marché chinois est réglementé, il n'est pas complètement ouvert et les acteurs économiques n'obéissent pas à un laisser-faire, laisser-passer absolu en Chine, parce que d'abord et avant tout, les autorités chinoises se sont dotées d'instruments pour réglementer le marché à l'intention des acteurs chinois,
pour maîtriser
leur marché. C'est pas nécessairement un paravent anti-étranger qui a été érigé. C'est un corpus, un ensemble de mesures juridiques qui ont été adoptées pour réglementer l'économie parce qu'ils ont une conception qui n'est pas une conception libérale, qui n'est pas une conception capitaliste au sens du libéralisme du terme, de l'économie. Alors effectivement, les étrangers, quand ils pénètrent sur le marché chinois, ils passent par ces fourches caudines-là. Et c'est exact qu'il y a un certain nombre de barrières à l'entrée du marché chinois. Mais il ne faut pas oublier qu'ils arrivent dans un terrain qui est un terrain très fortement réglementé. Et donc, ils vont devoir agir comme les acteurs économiques de ce terrain réglementé.
Et finalement, les Chinois ont deux spectres. Ils ne veulent pas devenir un pays aussi ouvert et aussi problématique à leurs yeux que les États-Unis, dans lequel le capitalisme crée des inégalités, mais il me semble qu'il y en a également en Chine. Ils ne veulent pas non plus du modèle soviétique et russe aujourd'hui, dont ils se sont pourtant beaucoup inspirés, Laure de Ron.
Alors, ils se sont beaucoup inspirés, et notamment du point de vue du droit. Parce que toute la base du droit chinois a été une exportation du modèle soviétique des années 50, de l'époque de la grande coopération, où on s'entendait encore assez bien.
C'est quoi un droit soviétique ?
Alors, c'est un droit qui a une finalité économique très forte, avec une emprise de l'exécutif extrêmement forte, quand on regarde les trois composantes de l'état de droit, qui fonctionne sur un régime d'autorisation ou de déclaration préalable à peu près sur tout, en tout cas sur la plupart des choses ayant un impact économique, qui est réglementé par une administration qui est très puissante dans beaucoup de domaines. Et effectivement, on va retrouver ces caractéristiques-là dans le droit chinois. Je voudrais quand même revenir un petit peu sur quelque chose que vous aviez dit, Antoine Garapon, sur le fait que le droit chinois ne serait pas ouvert ou que la Chine ne serait volontairement pas ouverte. Elle l'est dans une certaine mesure, mais elle s'ouvre à mesure que ça l'intéresse et qu'elle y trouve son avantage. Moi, j'ai travaillé pour un grand groupe français qui était établi en Chine, qui avait plus d'une trentaine de projets dans des domaines tout à fait stratégiques, avec des actifs stratégiques sous son contrôle. Il n'y a pas, à ma connaissance, de groupe chinois qui ait une présence équivalente en Europe aussi implantée et qui ait pu à ce point nouer des partenariats avec des autorités locales, avec des actifs stratégiques, avec une prise de contrôle d'actifs stratégiques, etc. Donc, tant qu'elle, évidemment que les Chinois l'ont pas fait ni par esprit d'ouverture ni par esprit ou en tout cas pour formuler plus exactement ce que je disais, ils l'ont fait pour parce qu'ils y trouvaient un avantage.
Bien sûr.
L'avantage, c'était le développement économique, l'importation de technologies, etc. Mais le fait que les choses soient faites par avantage et que lorsque vous n'apportez rien sur le marché, que vous ne mettez rien sur la table, vous vous retrouviez bloqué, n'est pas nécessairement quelque chose dont il faille se fâcher. Il faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas une méthode de développement qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on se dise il y a peut-être des bonnes idées à prendre.
Et pourtant, la consommation, une consommation effrénée, la gadgetisation, même on dit, en Chine, marche au bon train, même sans être totalement capitaliste et sans totalement ouverte, on a l'impression que la logique de la société de consommation bat son plein en Chine.
Alors, effectivement, elle bat son plein, mais ça donne une société extrêmement innovative, extrêmement inventive, extrêmement dynamique.
Ah,
alors, il y a de la casse.
C'est ça.
Alors, technologiquement, je crois que c'est assez indiscutable. L'inventivité chinoise, alors il y a deux phénomènes. Il y a le fait, effectivement, qu'il y a quand même technologiquement un grand espace où on peut innover, batifoler. Il y a beaucoup de casse, il y a beaucoup de sociétés qui s'ouvrent
partout,
et se ferment.
Comme partout, la Silicon Valley, c'est pas fait sans d'immenses casses humaines.
Absolument. Après, les Chinois ont effectivement un autre paramètre qui leur donne ce dynamisme, c'est qu'il y a l'effet de nombre. C'est évident que quand vous avez un problème technologique et que vous avez des bureaux d'ingénieurs, des bureaux d'études de 2000 ingénieurs qui se penchent dessus, ben vous avez une probabilité de trouver une solution qui est plus grande que si vous avez 20 ingénieurs qui travaillent sur le problème. Ça, c'est certain. Mais effectivement, il y a des pans de la société qui sont très encouragés par le pouvoir chinois qui voit ses avantages, qui crée des champions nationaux en incorporant éventuellement des apports internationaux. Et me semble-t-il, la méthode est intéressante. En tout cas, ça mériterait de se poser le problème.
Et une de mes dernières questions, et ça veut dire qu'on peut inventer même sans la liberté. On peut être créatif, on peut être innovatif dans une société dans laquelle il y a des limites à ne pas dépasser.
Alors oui, la réponse est oui. Et de toute façon, on est toujours... On est toujours brimé par quelque chose. Oui. Je participais à une conférence dernièrement où l'intervenant qui s'interrogeait sur le progrès scientifique chinois me disait, enfin exprimait le point de vue que ce serait difficile d'être un très grand scientifique si on est obligé de participer à des conférences du parti, d'adhérer à un dogme, de passer beaucoup de temps à étudier ce dogme. C'est pas faux. Et puis c'est vrai qu'il y a des espaces de liberté qui n'existent pas en Chine. Après, il y a d'autres limites. Quelle est la possibilité d'un grand scientifique en France qui est contraint par une limite d'âge à arrêter ses recherches
et
qui est contraint par des budgets
et l'absence de budget,
et qui passe 70% de son temps à chercher des crédits plutôt que de disséquer des cellules. C'est aussi une contrainte.
Bien sûr. Mais Laure Deron, est-ce qu'on a quelque chose à apprendre du droit chinois, de la régulation à la chinoise?
Alors, ma réponse personnelle est oui. Et d'ailleurs, je pense que non seulement on a quelque chose à l'apprendre, mais on a déjà commencé à apprendre, même si on ne se pose pas la question comme ça. Notamment en termes de réglementation sur l'accès au marché, de contrôle des investissements étrangers. Alors, j'en veux pour preuve la réaction du droit européen qui, très récemment, s'est doté d'un mécanisme de filtre des investissements étrangers. Ça n'a pas été officiellement dit comme ça, mais c'est évident que c'est une réponse européenne à des inquiétudes suite à des prises de participation chinoise. Il y a eu des précédents très emblématiques en Allemagne, en France, qui ont fait...
sorte de réaction chinoise à l'investissement chinois.
C'est une réaction européenne à l'investissement chinois, où on a pris quelque chose qui, dans la méthode, ressemble assez à ce que font les Chinois en Chine.
Oui, mais alors, je reviens à ce que vous disiez sur les intérêts, parce que ça me semble très, très important, très intéressant. Effectivement, l'extraterritorialité, la négociation fait que dans la mondialisation, on est beaucoup plus au contact les uns des autres, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, ça veut dire qu'il faut défendre bec et ongle ses intérêts. Est-ce que c'est pas un des problèmes de l'Europe, une des faiblesses de l'Europe, dans sa négociation avec la Chine, elle n'a pas un intérêt commun. Elle n'a pas la perception suffisante d'avoir des intérêts communs. Et donc, on continue d'y aller un peu en ordre dispersé.
Alors, on y va effectivement en ordre dispersé. Ça pourrait s'améliorer dans les années à venir, puisqu'il n'y a rien de plus fédérateur qu'une inquiétude commune.
Elle est très grande qui concerne la Chine.
Elle est relativement grande ce qui concerne la Chine. Je dirais que pour l'instant, on a deux barrières intellectuelles qui nous empêchent un peu d'avancer. La première, c'est qu'effectivement, on a du mal à avoir la perception de quel est notre intérêt commun. Quel est le plus petit dénominateur de l'inquiétude économique européenne qui pourrait faire qu'on se mette tous d'accord et qu'on offre une réponse concertée et efficace. Et puis le deuxième frein à l'efficacité, c'est on n'a pas encore tout à fait pris conscience que l'humilité est une grande vertu. Pratiquée par les Chinois qui sont des adeptes du watch and learn depuis qu'ils ont ouvert leurs frontières, etc. Et on aurait intérêt, je pense, à regarder certaines solutions juridiques chinoises en se disant, dans le fond, ça répond à un besoin. Est-ce que nous, on n'aurait pas le même besoin? Et est-ce que la méthode ne serait pas intéressante?
Quelle est la bonne attitude, Laure Deron, pour aborder une mondialisation dans laquelle les Chinois joueront un rôle plus important, dans lequel il y aura une mondialisation à la chinoise, y compris dans le domaine juridique?
Mais je pense qu'il faut tout simplement se payer de franchise et mettre carte sur table. Chacun défend ses intérêts, mais on n'est pas là forcément pour se battre et on n'est pas là forcément pour faire perdre l'autre. Et une fois que c'est compris comme ça et qu'on négocie comme ça, je pense qu'on pourra avoir des avancées économiques parce que, dans le fond, tous les régulateurs mondiaux ont un peu le même intérêt. Ils ont quand même intérêt à ce qu'on contrôle un certain nombre de flux, à ce qu'on résolve ensemble un certain nombre de problèmes. Et si on fait tomber des barrières qui sont des barrières de préconception intellectuelle, je pense qu'on peut trouver, en tout cas, j'ai senti, me semble-t-il, une curiosité chinoise et un désir d'échanger là-dessus pour qu'il y ait des échanges réciproques dans l'apprentissage des méthodes juridiques.
Pour ça, pour affronter l'autre, il faut être un, parce que nous ne sommes pas toujours. Il faut aussi abattre ces préconceptions qui sont beaucoup plus grandes que, par exemple, vis-à-vis des États-Unis. Toujours, bien sûr.
Il y a des préconceptions qui sont en train de tomber, je pense.
C'est votre sentiment.
Vis-à-vis de la Chine. La Chine a un modèle de réussite économique qui en impose quand même. Alors déjà, elle en impose quand on regarde les résultats économiques de la Chine. Et puis, je pense que de plus en plus, il y a une prise de conscience que non seulement c'est relativement réussi, en tout cas sur certains pans économiques en Chine, mais ça en inspire d'autres qui n'ont pas les mêmes préconceptions que nous et qui voient dans le modèle chinois quelque chose dont ils pourraient s'inspirer.
Oui, mais c'est un modèle sans liberté. Alors que les États-Unis, c'est une violence peut-être plus grande du marché, mais qui continue de porter quelque chose que nous chérissons tous, qui sont la liberté politique.
Mais encore une fois, d'où l'importance de s'asseoir autour de la table pour en discuter, de manière à essayer aussi de sincèrement leur dire « Nous, il y a des choses qu'on pense qu'on peut vous apporter. Pour autant, nous ne refusons pas d'apprendre. Et si vous avez des recettes qui marchent, on est prêt à en parler. »
Et vous pensez qu'il y aurait des oreilles ouvertes sous l'ère Xi Jinping ?
Alors, je suis toujours un peu gênée quand on me demande si la Chine pense ci ou la Chine pense ça. Il n'y a pas un cerveau unique qui est partagé par 1,5 milliard de Chinois et tout le monde a la même analyse. Il y a un certain nombre de segments dans la société chinoise. Il y a des niveaux différents avec des prises de responsabilité différentes. Et on n'a pas nécessairement... Moi, je n'ai jamais eu personnellement Xi Jinping comme interlocuteur. Mais j'ai souvent négocié avec des gens qui étaient tout à fait prêts à ce qu'on discute ensemble.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ces éclairages, Laure Daron.
Avec plaisir, Antoine Garapon.
Matière à penser, Laure Daron, Bruno Mourlan, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. À demain.